Donc, on est à notre deuxième dimanche de sortir d'Égypte. Avez-vous hâte de sortir d'Égypte? On est en train de sortir, ça fait un bout, là. Mais on va sortir de plus en plus parce que le Seigneur, par sa parole, va renouveler notre intelligence et va nous emmener toujours plus loin. Donc, on est en 2016 dans ce thème sur la liberté. C'est intéressant de voir comment que, tu sais, des fois, tu dis, tu as un éclair de génie, tu dis, aïe, 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 que je suis bon, j'ai un éclair de génie. Et tu t'aperçois que cet éclair de génie-là que tu as eu, ben est un peu partout dans le monde. Là, tu dis, ouais, OK. Ça doit être pas moi, ça doit être l'Esprit-Saint qui fait une œuvre. Et ce sujet de passer d'esclave à libre, c'est vraiment partout. On écoute des prédications un peu partout, puis on en parle partout. C'est pas un hasard. Hein? L'Esprit, il amène son peuple sur toute la terre, toujours dans un endroit nouveau. Et on dirait qu'il fait souvent ça un peu partout sur la terre, dans différentes églises, dans différents mouvements, qu'on entend le même sujet. On parlait l'année passée, hein, de le ciel va remplir, la terre sera remplie de sa gloire, mais ça se prêchait partout. Cette année, nous autres, on se dépêche à choisir libre pour être sûr d'être les seuls, mais il en parle encore partout. C'est pas vrai qu'on va être les seuls. On va être connectés à tout le monde. Mais c'est beau de voir que l'Esprit de Dieu est avec nous. Ça nous confirme ça. C'est ce chant-là que je veux qu'on finisse avec celui-là qui dit « Non plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu ». Hein, ça a été inspiré, c'est chanté partout. Je viens de commencer un cours avec un organisme d'implantation d'église. Et puis, il fallait lire un document avant. Et le dernier document était entièrement consacré à c'est quoi la différence à vivre comme un esclave et vivre comme un fils de Dieu. La Lise a dit, il faut absolument que tu écoutes une prêche de Chris Vallotton, c'est bon, celle du 17 février, si ça vous tente d'écouter ça. C'est très bon. Et ça parle de passer de esclave à ami de Dieu. Alors, ça se parle partout. Dieu veut libérer son peuple. Dieu, quand il a envoyé Moïse en Égypte, il dit, je veux libérer mon peuple. Mais Dieu, aujourd'hui, encore, il y a un peuple sur la terre qui est pas mal plus gros que les Égyptiens, que les Israélites en Égypte, qui est environ 2 millions. Nous autres, on est des millions et des millions partout sur la terre. Et le désir du Seigneur, c'est de libérer son peuple. Parce que même si on a été libéré de la mort par le salut, on ne vit pas assez comme des personnes libres. Et Dieu veut nous faire cheminer vers une liberté. Il veut qu'on vive de façon libre dans ce qui on est en tant qu'enfant de Dieu. Dans notre première série, on a pris le livre d'Esther, et vous vous souvenez, c'était « Entrer dans sa liberté ». On a vu, entre autres, qu'il y avait un prix à payer, par contre, pour la liberté. Jésus a payé le prix pour nous ouvrir les cieux, mais il y a un prix à vivre en tant qu'être humain. Il y a des choix à faire pour pouvoir entrer pleinement dans cette liberté-là. On a insisté avec le livre d'Esther sur le fait de jeûner, de prier, de s'arrêter devant Dieu, de chercher sa face. Et puis, on a vécu quelque chose de beau avec notre jeûne et prière, puis avec notre 24 heures ensemble. On a vécu quelque chose de beau. On a cherché Dieu, puis on s'est encouragé à continuer toute l'année à chercher Dieu par la prière, par le jeûne, par s'arrêter devant Dieu à tout moment de l'année, selon notre soif. Hein? Puis nous autres, on prie que la soif grandisse dans l'Église, fait que ça va vous venir souvent, que vous allez avoir le goût, vous allez voir. Alors, ensemble, on étudie le livre d'Exode maintenant. Lise nous a fait un beau résumé de ce qui s'est passé d'Adam et Ève jusqu'à temps que les Israélites soient esclaves en Égypte. Elle nous a parlé de deux êtres qui étaient libres, qui étaient Adam et Ève, et comment l'esclavage est rentré dans le monde et a rempiré jusqu'à temps que le peuple de Dieu soit répandu en Égypte. Par contre, elle nous a parlé d'un moment de grâce que le peuple de Dieu a vécu. C'est quand que, vous vous souvenez, quand que Joseph, un des 12 fils de Jacob, était lui déjà en Égypte, qui avait eu confiance en Dieu, et sa confiance en Dieu l'avait amené à être la deuxième personne d'importance et de puissance en Égypte, et que ses frères sont arrivés pour chercher de la nourriture. Et qu'est-ce que Joseph a offert à ses frères? C'était le pardon. Et le pardon que Joseph a offert à ses frères, ça les a libérés tout le monde. Et à cause de ce geste-là, qui est le même geste que Jésus nous a offert sur la croix, qui était le pardon, à cause de ce geste-là, ses frères et sœurs, ses parents, les 70 avec les petits-enfants et tout, étaient devenus des personnes libres, libres de la famine. Ils étaient en Égypte et dans un pays où il y avait plein de richesses. Et bien entendu, pendant quelques centaines d'années, ils se sont multipliés et ils ont passé de 70 à 2 millions de personnes. Et c'est là qu'on était rendu avec Lise. Et on va voir aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Libre comme Moïse ». Aimeriez-vous ça, être libre comme Moïse? Comme vous allez voir, moi, je dirais que ça dépend de l'époque de sa vie. Parce que Moïse n'a pas toujours été libre. Amen. Et c'est ça qu'on va voir. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui, justement parce qu'il n'a pas toujours été libre. Vous savez, Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, la vérité vous rendra libre. » C'est pour ça qu'on étudie la parole. Ça fait partie du chemin vers la liberté. Parce que si on demeure dans sa parole, la vérité nous rend libre. Mais comment peut-on demeurer dans sa parole si on n'étudie pas sa parole? Et bien entendu, je vous encourage, Église de Dieu, à passer du temps dans la parole. Que ce soit votre livre préféré, votre livre de chevet. Comme dit Rick Turner, il en a toujours un dans sa poche, puis chaque fois qu'il s'y attend en file à l'épicerie, il sort puis il lit. Il est toujours là-dedans. Faites savourer la parole de Dieu. Puis plus vous allez en être imprégné, plus l'Esprit va vous parler par cette parole-là, parce que ce n'est pas la parole écrite qui nous rend libre, c'est la parole qui vient d'en haut, qui nous parle. Mais Dieu se sert de la parole de Dieu pour nous parler constamment. Amen. Libre comme Moïse. On va lire des passages ensemble aujourd'hui. On va faire de la lecture communautaire. Mais c'est moi qui vais lire. Parce que dans notre 24 heures, on avait lu le livre d'Esther. Chacun notre tour. Ça nous a pris une heure à peu près à lire le livre d'Esther. Donc, on est en Exode. Et on va commencer au verset 8 du chapitre 1. S'il y en a qui ont leur Bible, vous pouvez lire dans votre Bible. Ça dit dans la parole, « Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. » Donc, durant le temps qu'ils se sont reproduits, un nouveau roi est arrivé en Égypte. « Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles, et c'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithon, de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus les Israélites devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile, des briques, ainsi que tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. C'est intéressant de voir comment on parlait de la liberté que Joseph a apportée au départ aux petits troupeaux en leur pardonnant. Et ils ont vécu prospères, ils se sont reproduits, ils étaient heureux, des grosses familles, ça allait bien. Et soudainement, on change le roi. Le pharaon meurt. Son fils succède, et lui, il n'avait pas connu Joseph. Il n'avait pas cette relation-là avec Joseph. Donc, toute la gloire que le premier pharaon avait vue, avait vécu avec Joseph, qui avait révélé qu'il y aurait eu de la famine, puis tout ça, il avait révélé une prophétie qui était pour arriver, et que, bien entendu, Pharaon avait été émerveillé de voir ce qu'il y avait en dedans de lui, qui était l'Esprit de Dieu, ben, le nouveau pharaon, il n'avait pas connu Joseph. Donc, pour lui, c'était un peuple ordinaire. Et c'est intéressant de voir comment que lorsqu'on change le contexte de nos vies, personnel à tout le monde. Puis on va voir que c'est arrivé à Moïse aussi. Lorsqu'on change de contexte, des fois, on se sent libre. On se sent libre simplement parce qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'il n'y a pas de difficulté dans nos vies, tout va bien. Puis on a l'impression d'être libre. Puis si vous demandez à plein de monde, comme lorsque Jésus a dit aux pharisiens, vous deviendrez libres, puis ils disent, comment ça nous allons devenir libres? Nous sommes libres. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jésus leur a dit, vous êtes esclaves du péché. La vraie liberté, c'est si vous êtes libres du péché. Et souvent, quand tout va bien, on n'a pas l'impression vraiment de pas être libre. Et si on parle à bien du monde dans notre société, où tout leur va bien, ils n'ont pas l'impression d'être esclaves. Puis ils vont être surpris de dire, comment ça, être libérés de quoi? Hein? Mais quand on change, juste changer un peu le contexte, souvent, de nos vies, on se rend compte que finalement, on n'était pas libre, puis on ne l'est pas plus là. Et c'est ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël, qui, bien entendu, ne marchait pas avec Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui étaient nés de nouveau. C'était des gens qui, par contre, connaissaient la loi. Pas la loi, mais le Dieu d'Abraham. Il avait une idée très vague, mais c'était un seul Dieu, un créateur. Abraham n'avait parlé à Isaac, à Jacob, et ça s'était transmis de génération en génération. Mais tant que ça allait bien, c'était suffisant. Mais lorsqu'il a commencé à avoir un changement de contexte dans le pays, c'est là qu'ils se sont trouvés vraiment esclaves, physiquement, mais qu'ils se sont aperçus finalement que leur liberté qu'ils pensaient d'avoir pour l'éternité, comme on pense toujours quand tout va bien, finalement c'était très fragile et que juste un changement de contexte faisait que il n'y avait plus cette liberté-là. Et toute l'humanité est comme ça. Hein? On a une impression de vivre libre jusqu'à temps que ça se met à aller mal. Et là, on s'aperçoit qu'on n'est pas libre, qu'on est esclave. Ici, on va étudier l'histoire d'un grand homme, Moïse. Par contre, vous savez, il y a un dicton qui dit « Derrière un grand homme se cache toujours une grande femme ». Moi, je vous dirais, ça cache toujours une grande femme ou des grandes femmes. Et j'aimerais vraiment, avant de parler de ce grand personnage-là, qu'on a envie, tout le monde, vous parler de grandes femmes qui l'ont précédé et qui étaient des femmes qui ont agi avec liberté contre les pressions qu'il y avait autour d'eux. Je voudrais premièrement vous parler des sages-femmes. Lorsque Pharaon a décidé de tuer tous les enfants jeunes, pour tout éliminer les mâles, pour que la race d'Israël peu à peu disparaisse et qu'elle se mêle à la race égyptienne. Les sages-femmes avaient une crainte de Dieu, la parole nous dit. Et même s'il y avait un risque à ne pas obéir à Pharaon, ils ont aimé mieux prendre le risque et d'écouter leur crainte de Dieu et faire ce qui était juste. Ces sages-femmes-là, moi, je les admire. C'est des grandes femmes qui ont marché avec une conviction libre de toute pression qu'il y avait autour de toute culture qu'il y avait autour d'eux. Si on regarde la mère de Moïse, une autre grande femme, qui, alors qu'on tuait tous les mâles, elle a décidé d'aller contre ça et de cacher son enfant et de l'envoyer, comme on le sait, dans un petit panier de roseaux sur le Nil. Et elle a décidé de prendre la liberté de faire confiance à Dieu plutôt que de suivre le courant qui tuait tous les mâles de ce temps-là. Si on regarde la sœur de Moïse, qui se tenait dans l'eau et qui regardait qu'est-ce qui se passait avec le petit panier et qui est allé voir la fille de Pharaon, aussitôt que la fille de Pharaon a été touchée par cet enfant-là, puis qui est allé dire, « Veux-tu que je te trouve une nourrice? » Puis finalement, elle a trouvé la mère de Moïse qui était la nourrice jusqu'à temps qu'il soit sevré du sein. Cette fille-là aussi, c'est une femme qui a risqué sa vie d'aller contre les lois du pays en protégeant ce petit bébé-là, puis en lui offrant même une nourrice, la meilleure nourrice que Moïse pouvait avoir, qui était sa mère, sa propre mère. Et même si on regarde la fille de Pharaon, alors qu'il y avait de la haine, comme on vient de lire pour les Hébreux, et surtout de la part de Pharaon, la fille de Pharaon, elle a vu le panier, elle a regardé l'enfant, elle a vu que c'était un Hébreu, c'est clair dans la parole, mais elle a décidé d'aller à l'encontre de cette haine-là, de tout son peuple, pour les Hébreux. Elle a été touchée par l'enfant, puis elle a écouté son cœur de femme, pour pouvoir prendre soin de cet enfant-là, même si c'était contre ce que son père même, Pharaon, avait décidé. Une autre femme libre, qui écoutait ce qui était juste, et sûrement Dieu lui a inspiré de prendre soin de cet enfant-là. Amen. Donc, moi, j'admire toutes ces femmes-là, même si on parle souvent du grand homme Moïse, puis je ne veux pas les négliger. Et Mesdames, vous êtes merveilleuses. Avec l'Esprit de Dieu, vous faites des merveilles. Et merci, Seigneur, pour la femme. Ici, on a une idée de ce que c'est d'être libre. Hein? La liberté, c'est vaste, mais ici, on voit qu'être libre, c'est faire ce qui est correct de faire. Même s'il y a de l'opposition, même si c'est contre notre culture, contre ce qu'on s'attend, contre nos peurs, être libre, c'est de faire ce qui est correct, ce qui est juste. Okay? Ce sont des gens libres, en fait, qui changent le monde, qui vont à l'encontre du courant et qui changent le monde. Ces femmes-là avaient pris cette liberté-là. Amen. Et Dieu nous appelle à une telle liberté. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Moïse est né. Il a été sur le Nil. Il a été pris par la fille de Pharaon qui en a pris soin. Et Moïse a grandi dans le palais de Pharaon, bien entendu, probablement avec toutes les études, toute la richesse de Pharaon et le statut social, finalement, qu'il y avait dans le palais. Au verset 23 du chapitre 2, Moïse est rendu grand. Longtemps après, attendez un petit peu, non, ça je l'ai lu, un peu, on s'en va plus loin. OK, c'est ça. Bon. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance après Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. Le peuple de Dieu est esclave. Il reste esclave pendant des décennies. Et soudainement, le peuple de Dieu se met à crier vers Dieu. Vous savez, le premier pas vers la liberté, lorsqu'on est esclave, c'est de se tourner vers Dieu et de crier vers Dieu. L'histoire ne nous dit pas si Moïse a fait ça. Lui, il était dans le palais, il était bien occupé. Je ne suis pas convaincu que Moïse a crié vers Dieu à ce moment-là. Mais on sait que le peuple de Dieu, lui, criait vers Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu s'est mis à crier vers Dieu, Dieu a entendu, Dieu a compris et Dieu a suscité une personne pour sauver son peuple. Et c'était Moïse. Pendant tout ce temps-là, alors que les gens gémissaient et tout ça, on sait ce qui s'est passé. Moïse, il y avait un gros dilemme dans son cœur. Moïse n'était pas libre. Moïse, il était étranger dans le palais de Pharaon, alors qu'il était hébreu. Il était étranger dans son peuple, alors qu'il avait été élevé par la fille de Pharaon. Donc, Moïse ne jouissait pas de liberté. Moïse était pris en dedans de lui avec toutes sortes de dilemmes. Sa conscience de ceux qui l'avaient élevé, qui avaient pourvu à ses besoins. Je sais ce qui est arrivé, j'avais sauté une page. Amen. Toute cette conscience-là, ils sont en train de massacrer mon peuple, mais moi, finalement, j'appartiens à Pharaon, mais finalement, à qui j'appartiens? J'appartiens-tu aux Hébreux? J'appartiens-tu à Pharaon? Et c'est sûr que Moïse a eu un gros cheminement difficile, sûrement pendant un bon bout de temps. Et finalement, je pense que sa colère de voir l'injustice par rapport à son peuple a été plus grande que tous les bienfaits qu'il recevait dans le palais de Pharaon. Et on sait qu'il s'est retrouvé à un moment donné dans un dilemme où il a vu un esclave, un de son peuple se faire battre, et lui a attaqué l'Égyptien et il a tué l'Égyptien. On sait ce qui s'est passé après ça. Après avoir tué l'Égyptien, la parole de Dieu a dit que le Pharaon, lorsqu'il a appris ça, il voulait tuer Moïse. Et Moïse a fui et il est parti dans le désert. Donc, Moïse était loin d'être un homme libre. Hein? Il n'était pas libre à cause de tout son contexte. Puis là, ben, il avait peur d'être tué. Et lorsqu'on n'est pas libre, on fait souvent des gaffes. Lorsqu'on vit en tant qu'esclave, puis on va voir un peu plus loin dans la série, la différence entre vivre comme un esclave ou vivre comme un fils de Dieu, mais quand on vit comme un esclave, on fait des gaffes. Hein, on réagit souvent. Et nos gaffes, la plupart du temps, nous enfoncent encore plus dans nos problèmes, nous enfoncent encore plus dans notre esclavage. Un peu comme quand on compte une menterie. Après ça, il faut que tu comptes d'autres menteries pour couvrir ta menterie. Puis après ça, il faut que tu comptes d'autres menteries pour couvrir les menteries qui ont couvert tes menteries. Puis ça finit plus. Hein? Puis finalement, tu finis complètement esclave de tes menteries. Et le péché, c'est ce que ça fait constamment. Moïse, il était déjà pas libre. Il était déjà déchiré en dedans de lui. Un peu comme j'étais quand j'étais jeune, le monde, il me trouvait. Il disait, ah, il est libre, ce gars-là, il a une carrière, ça va bien, puis tout ça. Mais en dedans de moi, j'étais pas libre. Je me sentais esclave de mon anxiété, esclave de tous mes questionnements. En dedans, je ne vivais vraiment pas comme un homme libre, même si de l'extérieur, ça paraissait. Je paraissais être libre. Mais ça a été le cas de Moïse. Le comportement d'esclave nous porte souvent à faire des choses cachées aussi. Puis à ce moment-là, chaque fois qu'on fait des choses cachées, on devient encore plus prisonnier. Hein? Puis ça dégringole de plus en plus. Et ici, bien, Moïse avait peur d'être tué, puis il a pris la fuite. Le comportement d'esclave nous amène souvent à fuir notre destinée, à fuir ce qui est bon devant nous, qui n'est pas facile, mais qui est bon, à fuir des obstacles qu'on doit franchir pour aller plus loin, mais on fuit à la place. Si j'ai peur, je me casse. Si j'ai peur, je me mets un masque. Je me défends de façon dysfonctionnelle, des fois violemment. Je réagis. Je n'agis pas selon ce que je suis, ce que j'ai été créé vraiment. Je cherche à faire plaisir aux autres, à être aimé, à être accepté. Je ne fais pas confiance. Je suis facilement ébranlé, déstabilisé. Hein? Et dans le cas de Moïse, ben, il a fui. Il s'est éloigné loin, loin, loin. Et finalement, il a rencontré des belles jeunes demoiselles qui cherchaient de l'eau, comme on sait l'histoire. Qui a commencé à lire Exode depuis le début de la série ici? Levez les mains. OK. J'aimerais que ceux qui n'ont pas commencé à lire Exode, vous regardiez autour de vous. Levez les mains ceux qui l'ont lu, afin de ne pas vous sentir mal, parce que la majorité n'a pas commencé. Fait que sentez-vous bien, il n'y a pas de problème. Mais je vous encourage, peut-être pendant la série, à passer à travers le livre. C'est le fun, des fois, aller vérifier ce qu'on vous enseigne ici, parce que des fois, peut-être qu'on est dans le champ. Alors, il faut vérifier. Hein? C'est important. Donc, Moïse s'en va au loin. Il rencontre 7 jeunes belles filles à un puits qui venait chercher de l'eau. Des bergers les tassent, les filles. Moïse, ça le choque. Il attaque les bergers. Il puise lui-même de l'eau. Il donne de l'eau aux filles, à leurs animaux. Et les filles rentrent chez eux. « Papa, papa, il y a un homme incroyable, un Israélite. Il nous a défendus. » Puis il leur raconte tout ça. Puis là, Jéthro, il leur dit, « Bien, venez, amenez cet homme-là ici. Invitez-le, laissez-les pas là. » Il retourne le chercher. Et finalement, il rencontre ce berger-là. Il est adopté par la famille. Il lui donne sa fille Séphora en mariage. Et finalement, Moïse se trouve une femme, se trouve une job. Pourtant, il vient de faire plein de gaffes. Est-ce que Dieu prend soin de nous lorsqu'on fait des gaffes? Qui n'est pas convaincu que Dieu prend soin de nous quand on fait des gaffes ici? On aurait prié pour vous si vous auriez levé la main, mais vous pouvez après, si vous étiez gêné de la lever. Même lorsqu'on fait des gaffes, même si on ne fait pas ce qui est correct, puis que nous autres, on est déçus de nous-mêmes, puis on se déprécie, puis on dit qu'on ne vaut rien, puis tout ça, Dieu prend soin de nous. Lorsqu'on croit au Seigneur, Dieu prend soin de nous tout le temps. Okay? Alors, soyez rassurés. Marchons de façon, avec un joug léger, parce que Dieu prend soin de nous. Hein, donnons-lui tous nos soucis, parce qu'il prend soin de nous, que la parole nous dit. Amen. Donc, dans Exode 3, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-frère Jéthro. Et là, on continue. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Là, ça fait un bout, il est marié, bon, il a un enfant, puis il conduit le troupeau. Et ça dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » Moïse a fait un détour. Moïse a fait un détour pour voir ce qu'il y avait là. Il a laissé son horaire de côté. Il a laissé sa tâche de côté, ses responsabilités, parce que là, il voyait quelque chose qui était plus important que tout ce que la terre pouvait lui offrir. Et il a fait un détour. Et ça a changé sa vie. Et ça a changé la vie de son peuple au complet. Amen. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne brûlent pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Wow! Sentez-vous l'amour de Dieu là-dedans? Moïse se cacha le visage, car Moïse était encore esclave. Moïse avait peur de Dieu. Hein? Ça dit, il se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Amen. Moïse était pogné, comme on peut dire, comme on est tous pognés souvent. On sait ce qui se passe par la suite. L'Éternel lui dit, « J'ai vu la grande souffrance de ton peuple. Je suis descendu pour le délivrer. » Et il lui dit, « Les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les Israélites. » Alors Dieu invite Moïse à participer à un plan grandiose, incroyable, de libérer les Israélites de l'esclavage, 2 millions de personnes, et il dit « Vas-y. » OK? Et bien entendu, tous les versets qui suivent, Moïse se bat un petit peu contre Dieu. Moïse dit « Qui suis-je, moi, pour y aller? » Moïse n'est pas libre. Hein? Après ça, il dit « Ben, je connais même pas ton nom. » Parce que Dieu, entre chaque chose, il l'ostine. « Ouais, mais je connais même pas ton nom. » Qu'est-ce que je vais leur dire que ton nom est? Et là, Dieu lui répond, mon nom c'est je suis celui qui est. Je suis. Hein? Donc, Jéhovah, Yahweh, l'Éternel, comme on appelle Dieu, ça vient de ce petit entretien que Dieu a eu avec Moïse. C'est là qu'il a révélé son nom pour la première fois. Alors, c'est des traductions de je suis, finalement. Okay? Donc, il dit je suis celui qui est. Tu leur diras que je m'appelle je suis. Dieu donc encourage Moïse en lui disant qu'ils vont l'écouter, parce qu'il dit, comment qu'ils vont me croire? Ils ne me croiront pas. Il dit, ben, tu vas faire des prodiges. Ton bâton là, que tu as, là, mets-le à terre. Là, il est devenu un serpent. Il dit, reprends-le. Il le prend par la queue, il redevient un bâton. Il dit, mets ta main sur ta poitrine, sors-la, et t'es rendu plein de lèpre. Rentre-la, sors-la, et t'es rendu guéri. Dieu fait des prodiges. Il dit, avec ça, tu vas les convaincre que je suis Dieu. Vous savez, ça n'a pas changé aujourd'hui. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin de voir des prodiges pour croire. Ceux qui disent que les prodiges se sont arrêtés au temps des apôtres, bien, ils ne doivent pas avoir vécu la nouvelle naissance. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu, mais ils ont juste été enseignés comme ça. Mais parce que le plus grand prodige de ma vie, moi, ça a été ma nouvelle naissance. J'ai changé complètement de ce que j'étais avant. C'est un miracle incroyable. Demandez à ma femme, elle va vous le dire. Hein? Parce qu'elle m'a connu avant puis après. On a besoin de prodiges, l'être humain, pour croire. Puis Dieu le sait. Puis c'est pour ça que Dieu a donné ça à Moïse. Nous sommes ceux que Dieu appelle, ceux qui avons connu Christ, ceux que Dieu appelle pour aller montrer la gloire de Dieu et les prodiges de Dieu au monde autour. En leur en parlant, mais en priant pour eux et en s'entendant que ce que Dieu fasse des prodiges dans leur vie. Amen. Ça prend les prodiges. On a besoin des signes et des prodiges. Et de toute façon, Jésus, quand il est parti, il a dit, c'est ce qui va arriver avec mon peuple. Vous allez faire toutes sortes de choses, des choses plus grandes que moi. Donc, il ne faut pas négliger les signes et les prodiges. Ça fait partie de la vie chrétienne de tous les jours, pas d'une exception à un moment donné qu'on écrit dans un livre, de la vie chrétienne de tous les jours. Amen. Après ça, il dit, oh, je suis pas doué pour parler. On pense que c'est du bégaiement. Il n'y a pas de preuve de ça, mais il avait de la misère à parler, ça a l'air Moïse. Là, Dieu il dit, qui a inventé la parole? Puis c'est moi qui ai fait ça. Là. Pourquoi tu t'inquiètes de comment tu parles? Hein? Ah, finalement, ils envoient quelqu'un d'autre. Là, Dieu, il lève le ton un peu. Ça le saisit. Moïse est esclave, comme on l'a vu, de plein de choses. Hein? Puis une des grosses esclavages que Moïse a, c'est la peur. La peur qu'il ait son background. Comme nous autres, on a peur de plein de choses. Hein? Il a peur de Dieu. Il a peur de déplaire à son beau-père et de le laisser là puis d'apporter sa fille. Hein? Quand il demande de l'apporter, il dit, pourrais-tu me laisser? Mais on voit qu'il n'est pas sûr de lui. Il a peur de Pharaon et des Égyptiens. Il a peur de son peuple, les Hébreux. Il a peur de son incapacité. Il a peur de ses défauts. Il a peur de ses réactions antérieures. Il a peur que Dieu ne fasse pas vraiment ce qu'il dit qu'il va faire. Hein? Il n'est pas sûr que ça va arriver. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur que ça ne fonctionne pas. Il a peur que les signes et les prodiges annoncés n'arrivent pas. Il a peur que Dieu ne soit pas tout à fait aussi digne de confiance qu'il espérerait. Il a peur de l'échec. Il a peur qu'on ne croit pas. Il a peur de présenter et parler d'un Dieu que lui vient de rencontrer, mais que les autres n'ont jamais vu. Il a peur d'être tué, il a peur de ne pas être aimé, il a peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être rabaissé. Moi, je suis sûr que vous avez une de ces peurs-là en dedans de vous autres, au moins. Hein? En tout cas, moi, j'en ai plusieurs. Moïse est esclave, plus que jamais. Puis le contexte, comme je vous disais tantôt, le contexte a fait qu'il s'en rend plus compte en ce moment-là. Il se rend compte vraiment à ce moment-là, je suis vraiment esclave, je suis vraiment pogné. Dieu, là, ce que tu me demandes là, ça dévoile tellement ma nature d'esclave. Amen. Que va-t-il faire? Es-tu obligé de dire oui à Dieu? Et peux-tu dire non? Tu peux dire non. Dieu n'oblige jamais personne. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est pour ça qu'on peut juste trouver la liberté en Dieu. Parce qu'il y a juste Dieu qui oblige personne. Dieu, c'est tout le temps librement qu'on va vers lui, librement qu'on l'obéit, librement qu'on décide de sanctifier, de vivre selon ses voies. C'est toujours libre, libre. Dieu n'oblige personne. Moïse n'était pas obligé de dire oui. Mais là, il a fait... Le plus grand acte probablement de sa vie de liberté qu'il a jamais fait avant, il a décidé, contre toutes ses peurs, contre toutes les évidences, contre toute la logique, il a décidé de dire oui, puis d'y aller, de répondre à son appel, puis de marcher comme Dieu lui avait demandé pour aller délivrer le peuple de Dieu. Son premier acte de liberté. Amen. Comme sa mère avait fait, comme sa sœur avait fait. Comme sa mère adoptive, la fille de Pharaon, avait fait, comme les sages-femmes avaient fait, Moïse a décidé de dire oui contre toute évidence. Amen. Moïse a fait un détour pour trouver Dieu. Ça l'a ébranlé de le trouver. Mais il a décidé de se faire confiance puis de dire oui. Amen. Moi, les chapitres 5 et 6, c'est des chapitres qui me font tomber sur le dos dans tout ce passage-là. Juste tourner la page. On va juste lire la fin du chapitre 4 avant. Je vais vraiment me garder du temps pour chanter le chant. La fin du chapitre 4, Moïse se présente aux Israélites. Okay? Il a fait confiance à Dieu pour les signes et les prodiges. Il leur a fait les signes et les prodiges. Et le peuple, finalement, y croit et adore Dieu. Tout va bien jusque-là. Le plan marche comme prévu. Mais qu'est-ce qui arrive au chapitre 5? Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon nom dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? » Et bien entendu, on sait que par la suite, Pharaon, il refuse carrément. Et non seulement il refuse de laisser partir le peuple, mais juste à cause que Moïse est venu le voir. Pour ça, il dit, moi, je vais leur rendre la vie plus dure encore. Je vais leur enlever la paille, il va falloir qu'ils aillent la chercher eux-mêmes, puis je vais leur demander de produire le même nombre de briques qu'avant. Et bien entendu, le peuple est devenu accablé. Donc, opposition, ça ne marche pas comme c'était prévu. Hein? Et qu'est-ce qui se passe avec le peuple d'Israël? Bien, le peuple d'Israël n'a pas aimé ça, que leur tâche soit plus lourde. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse, dont on parle de Hébreu, et Aaron qui les attendaient, ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge à cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que du dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Là, ça n'allait pas bien. Rejeté par Pharaon, par les Égyptiens, rejeté par son propre peuple, ça n'allait vraiment pas comme Dieu lui avait dit que c'était pour marcher. Il y a un prix à payer pour la liberté. Hein? Pas juste prier puis jeûner. Mais quand on décide d'obéir puis de dire oui, ça ne marche pas toujours comme on penserait au départ. Hein? Moi, ici, le passage que je veux, qui me fait tomber sur le dos, c'est de voir le changement radical qu'il y a eu dans Moïse. Dans 5:22, hein, ça dit « Moïse retourna vers l'Éternel ». Le réflexe de Moïse, on le sent tout à coup, plus libre qu'il était. Moïse vient de marcher avec le Seigneur, il a vu des prodiges avec le Seigneur, il a parlé cœur à cœur avec le Seigneur, il a fait part de ses peurs, et soudainement, son attitude change face à Dieu. Regardez, Moïse se tourne vers l'Éternel. Tout va mal, sa réaction, il se tourne vers l'Éternel. Seigneur, et il a la liberté de lui parler. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Moïse est libre, soudainement. Libre de se tourner vers Dieu puis enfin d'être lui-même, de ne plus marcher par la peur, de ne pas avoir peur que Dieu le juge. Simplement y ouvrir son cœur, simplement être comme il est lui-même. Libre de ce qu'il ressent dedans et de parler comme ce qu'il ressent dedans. Amen. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on dit oui à Dieu, Dieu nous parle. Dieu est avec nous autres. Et tout change. Et Dieu nous rend libres peu à peu. Jésus, il dit dans Jean 15:15, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. » Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. D'esclave à ami. Amen. Moïse a marché avec Dieu et Moïse est devenu ami de Dieu. Et lorsqu'on devient ami de Dieu puis qu'on marche avec Dieu, on devient libre de plus en plus, délivré de toutes nos peurs et de toutes nos craintes. Et c'est ce qu'il a vécu. Et pendant que les musiciens s'approchent, je vais juste vous lire la réponse de Dieu. Ça dit, l'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. » Là, Moïse, il parle librement à Dieu. Et Dieu lui répond avec son amour et sa douceur. En fait, c'est intéressant de voir qu'il répond à peu près la même chose qu'il avait déjà dit avant. Mais la peur et l'esclavage de Moïse l'entendaient d'ouvrir les yeux puis de voir vraiment. Mais là, il répète, parce que là, il sait qu'il va entendre. Parce que Moïse est devenu libre, puis il est devenu ami de Dieu. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu s'adressa encore à Moïse. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. Il dit, Moïse, c'est le premier à qui je dis vraiment mon nom. Hein? J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent sous l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous rachèterai avec puissance, et ce, par des actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob, et je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Dieu dit, tu as besoin de liberté si tu veux rentrer dans la terre promise. Si tu marches avec moi, tu deviens mon ami. Tu deviens libre. La vérité te rend libre. Et là, tu rentres dans la terre promise. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite en tant que son peuple. Il nous invite à cette liberté-là, de pouvoir laisser nos peurs de côté, lui dire oui, marcher avec lui et devenir libre en lui. Amen.